Quand on explique un parcours difficile en moto ou en VTT, ou peut-être en quad, en 4x4, on explique quelles sont les difficultés, quand on a un petit passage difficile, technique, quelles sont les difficultés et quelles sont les ornières, en fait, les pièges, comment on les repère et surtout comment on les évite, comment on évite d'y tomber. Donc nous continuons la série sur 2 Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée. On en est au chapitre 2. Et l'auteur nous montre ici des choses à éviter et comment les éviter. On l'a dit dans l'introduction, la lettre de Paul à Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée, ce sont des conseils et des encouragements de Paul à un responsable d'église, un pasteur peut-être. Et donc ça s'adresse d'abord à Timothée en premier lieu, ça s'adresse ensuite au responsable d'église, au pasteur, mais ça s'adresse, on l'a dit aussi, évidemment à tous les chrétiens, tous ceux qui peuvent être dans une situation de management, que ce soit en église de maison, que ce soit aux écureuils avec les enfants, que ce soit dans les groupes de jeunes, et aussi bien sûr tous les chrétiens doivent aspirer aux mêmes choses, c'est évident. Donc ça s'adresse à tous, c'est clair. Donc là on va commencer au verset 14 de Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, c'est la page 784 dans les Bibles blanches, et on va voir des choses à éviter. Comment on les discerne et comment on les évite. Comment on les discerne, comment on les évite. Les ornières, comment on les discerne, comment on les évite. Je vais lire à la page 784, les versets 14 à 26. Seigneur mon Dieu, je veux prier que ta parole touche les cœurs, que ce soit ta parole, ce soit ce qui vient de toi qui soit retenu, qui fasse son travail dans les cœurs. Et je veux te prier, comme tu l'as dit, comme tu l'as promis, que ta parole ne revienne pas à toi sans effet. Et que ton esprit aide chacun, ton Saint-Esprit soit sur chacun pour l'aider à comprendre et à mettre en pratique, à appliquer ce que tu veux nous dire dans ce chapitre, Seigneur, dans ce texte. Amen. Verset 14, en haut de la page 784. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Juste toute petite parenthèse, rappelle ces vérités. Ces vérités, ce sont et ce qu'on a vu dans les chapitres 1 et 2, enfin juste avant, et notamment, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, notamment la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui est rappelée, l'évangile qui est rappelé au verset 9 du chapitre 1, « Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. » C'est ça qu'il veut que Timothée rappelle, plutôt que les disputes de mots. Je continue la lecture, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils ébranlent la foi de quelques-uns. » De certains, pardon. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuses de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Stéphane a l'habitude de dire jusqu'ici la parole de Dieu. Pour dire que ce qui suit, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est même si j'ai étudié le texte, si je me suis mis à genoux devant Dieu pour ne pas dire de bêtises, pour qu'il me remplisse aussi de son Saint-Esprit pour préparer, ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est aussi pour ça que vous avez tout à fait le droit et le devoir de venir voir après le culte le prédicateur pour lui dire « j'ai pas bien compris ça, ou je ne suis pas d'accord avec sur tel ou tel point. Et je vous encourage vraiment à utiliser ce droit. Les ornières, donc. Les ornières, c'est ce qu'il faut éviter. Donc là, on l'a assez, c'est assez clair hein, dans le texte. Ce sont les disputes de mots, les bavardages profanes, discours vides et profanes dans une autre traduction. Ce sont les spéculations folles et stupides dans une autre traduction, discussions folles et ineptes. Ça veut dire qu'ils manquent de sens, qu'ils sont absurdes. Donc qu'est-ce que ça peut être? Prenons l'exemple de trois puces qui sont sur un zèbre. La première est ici, la deuxième est là et la troisième là. Donc il y a ces deux puces. Elles discutent entre elles de cet animal. Donc par Takiwalki, hein, elle parle bien sûr. Et la première dit, c'est un animal à poils noirs qui... Et l'autre vous dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est un animal à poils blancs. C'est clair, c'est évident. Et l'autre se dit, mais non, bien sûr que non, c'est un animal à poils noirs. Et elles discutent pendant des heures là-dessus. Ils ne sont pas d'accord, bien sûr. Donc finalement, elle demande à la troisième, qui est ici, et la troisième dit, noir ou blanc, j'en sais rien, mais en tout cas, il pue. Un autre exemple, ça serait une fourmi qui se balade sur le plafond de la chapelle Sixtine et qui essaye de décrire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ou peut-être en photo ou en vrai, le plafond de la chapelle Sixtine. Imaginez une fourmi qui est là-dessus, qui essaye de décrire ça. Bon, là, il y a du rouge. Ah, là, il y a un peu de bleu. Bon, là, il y a du... C'est sans intérêt. On est d'accord? C'est sans intérêt ce qu'elle va nous dire sur le plafond de la chapelle Sixtine. C'est de loin qu'il faut le voir, c'est d'en bas, quoi. C'est pour ça que c'est un plafond. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit « L'attachement au détail démontre une perte de la piété. » C'est un théologien qui a dit ça. « L'attachement au détail démontre une perte de la piété. » Un autre exemple, je discutais, des gens étaient venus faire du porte-à-porte chez moi, des gens qui en font souvent, et ils me disent « J'en aimerais discuter avec vous, parce que je leur avais dit que j'étais chrétien, etc. » Je leur dis « Ok, je veux bien... » je veux bien discuter avec vous, mais je ne veux pas de disputes de mots. Vous savez, dans Timothée, il est dit d'éviter les disputes de mots, donc je suis tout à fait d'accord, mais évitons les disputes de mots. Mais d'accord. Et puis, il commence à me parler et me dire que que Jésus-Christ n'est pas mort sur une croix, mais sur un poteau. Je dis, ok, ça c'est typiquement pour moi une dispute de mots. Pour moi, ce qui est important, c'est que Jésus-Christ soit mort, il soit mort pour mes péchés, et qu'il soit mort pour moi, qu'il ait pris entièrement ma faute, qu'il m'ait réconcilié avec Dieu, que ce soit sur une croix ou sur un poteau. Mais je m'en fous. Alors, c'est écrit dans la Bible sur une croix, donc mais si c'est un poteau, ça ne me change rien, il est mort pour moi. Je suis sauvé, il est mort pour moi. C'est vraiment typiquement une dispute de mots que ces gens-là voulaient avoir avec moi. Donc j'ai arrêté tout de suite. Un autre exemple, c'est un peu différent, mais si nous prêchions ici, chaque dimanche, sur, attention, accrochez-vous, sabellianisme ou modalisme, ça vous intéresse? Sur l'arianisme, un deuxième dimanche sur l'arianisme. Sur l'union hypostatique, ouais, non? Ou sur la doctrine de la kénose. Ce sont des thèmes de la théologie qui ont certes leur importance. Je veux dire, est-ce que si on passait huit dimanches sur une série de huit dimanches sur le pélagianisme, avec un dimanche sur la prononciation, comment ça s'écrit, l'orthographe. Vous préférez ça ou 19 dimanches sur l'évangile de Jean? On a choisi 19 dimanches sur l'évangile de Jean et on s'est répété. Stéphane nous le disait à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, de dire qu'une seule chose, c'est croyez en Jésus. Ben oui, mais c'est mieux que les disputes de mots, je pense. En fait, à force de... Si on passe notre temps à pinailler sur chaque détail, on ne se focalise plus que là-dessus et on oublie le reste. On ne voit plus l'ensemble. Comme la fourmi, elle voit pas l'ensemble. Et elle voit pas ce qu'il y a de merveilleux. C'est rouge, c'est bleu, c'est vert. Et elle voit plus le plan merveilleux de salut. Et le plan merveilleux de salut, il faut prendre un peu de distance pour le voir. C'est pas en s'attachant à des détails. Et donc, quand on se focalise que sur des détails, on en arrive à dire n'importe quoi. Et on en arrive à dire, par exemple, comme Hyménée et Philette, que la résurrection n'est pas arrivée. Est déjà arrivée, pardon. Que la résurrection est déjà arrivée. On en arrive à des hérésies. Au début, c'est pas des hérésies, c'est des disputes de mots. En grec, ça veut, en français, ça veut dire oui, mais en grec, ça veut dire non. Bon. Donc, si on discute à l'infini sur des détails, on aura très très vite la possibilité de s'engueuler, de se fâcher, de pas être d'accord. Mais si on parle ensemble des merveilles que Dieu a faites pour nous, que Dieu a accompli, le don de son Fils pour nous sauver étant la première, eh ben, on a moins de risque de se disputer. Et au contraire, cela nous poussera à louer Dieu. Cela nous poussera à louer Dieu, retenez ça. Donc oui, je l'ai dit, à noter, les disputes de mots, ce ne sont pas forcément des hérésies. Mais Paul dit qu'elles entraînent des hérésies. Je vais relire le verset. Verset 16. « Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole propagera son infection, comme la gangrène. » C'est le cas d'Hyménée et Philette. « Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils ébranlent la foi de certains. » Ça commence par des bavardages profanes, et ça finit par l'hérésie. Hérésie, tout le monde sait ce que c'est, une hérésie. Une hérésie, c'est une fausse doctrine, c'est quelque chose de clairement faux. Hein. Donc, les ornières dont je parlais dans mon image du petit tour en moto, en motocross, les ornières ne sont pas des hérésies, mais si on passe notre temps à rouler dans les ornières, au bout d'un moment, on va finir par se mettre au fossé. C'est ça que ça veut dire, je pense. Si les prédicateurs ici, Mathieu, Stéphane, JB et moi, on passait notre temps à prêcher sur des sujets épineux, des sujets douteux, des sujets à polémiques, on aurait vite des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On a tous des idées bizarres, surtout Stéphane, il a quelques idées en théologie un peu bizarres, je plaisante là. Hein. Mais ces idées, on les garde pour nous, ou alors on les garde pour les fins de soirée entre deux ou trois copains, avec un verre de vin ou de whisky, et là on discute sur ces sujets-là. Je ne sais pas si vous étiez ici ou si vous vous rappelez, on a fait un débat ici sur le millénium. Millénium ou pas millénium. On a gardé ça pour un dimanche après-midi, pas pour le dimanche matin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le ton était relativement léger. Il n'y avait pas de gagnant, de perdant. Il n'y avait pas de bonne... il n'y avait pas de la bonne solution à la fin. Quoi. Une autre chose que l'on voit dans ce passage à éviter, à fuir même, les passions de la jeunesse. Ah, ça picote un peu plus peut-être là, non? Parce que autant on n'est pas forcément très très penché dans le sabellianisme, autant on a tous peut-être des passions, et après ça picote un peu plus. Alors je veux rappeler ce qu'est une passion ici. Ce n'est pas juste un centre d'intérêt, pardon. C'est pas juste un passe-temps. La définition du dictionnaire pour passion, c'est mouvement violent, impétueux de l'être vers ce qu'il désire. Émotion puissante et continue qui domine la raison. Donc je pense clairement que ce passage ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de loisirs, qu'il ne faut pas avoir de passe-temps, mais il faut fuir les passions qui dévorent. Vous voyez la différence? Au fait, aujourd'hui, je voulais vous dire, si vous voulez intervenir pendant le message, vous pouvez le faire. Si je ne sais pas répondre, vous êtes complètement hors sujet, je vous dirai qu'on en reparle plus tard. Mais n'hésitez pas à lever la main, à parler. Je crois que mon message est un petit peu court aujourd'hui. Je regarde en termes de... Je compte le nombre de mots. Enfin, c'est Word qui compte le nombre de mots. Je sais qu'il est un peu plus court que d'habitude. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça ne veut pas dire pas de loisirs, mais pas de passion qui me dévore. Pas de mouvement violent, impétueux. Donc, on aime tous certaines choses du monde. On a tous des choses qui sont purement du monde, on va dire. Du monde à la différence de venant de Dieu. Que l'on aime faire, il y a un sport par exemple, où on aime aller au cinéma, on aime regarder la télé, on aime surfer sur l'océan ou sur Internet, on aime manger peut-être pour certains, je pense qu'il y en a ici au moins un, ça peut être son travail également, mais tout ça c'est légitime, je crois que c'est légitime. Ça devient un problème, un passe-temps devient un problème ou une passion au sens du texte de Timothée, ça devient une passion à fuir si on ne peut plus s'en passer, s'il m'amène à manquer de discernement, s'il me fait m'éloigner de Dieu, s'il me fait abandonner Dieu. Ça paraît évident ce que je dis, mais si une passion m'entraîne à abandonner Dieu, c'est clairement un problème. Quelques petites questions pour voir si mon centre d'intérêt, mon passe-temps est une passion à fuir. Petite question, puis-je passer une semaine sans sacrifier à ce passe-temps. Tiens, quel mot j'ai employé là? Sacrifier. Puis-je partir une semaine, de la même façon, en vacances, sans ma Bible? Ça vous arrive de partir une semaine en vacances sans la Bible? L'avantage maintenant, c'est qu'on beaucoup l'ont sur le smartphone, et comme on part pas une semaine sans smartphone, on a la Bible. Mais je sais pas si c'est dans le bon sens que ça se passe. Est-ce que si je perds ce passe-temps, est-ce que je deviendrai malheureux? Est-ce que ma vie est foutue si j'ai plus ce passe-temps? Mais comme vous savez, Grand Corps Malade, sa passion, son passe-temps, c'était la natation, le plongeon même, et il s'est retrouvé paralysé. Est-ce que j'y consacre une grosse partie de mon temps, de mon budget? Tiens, j'ai utilisé le mot consacré, tiens, c'est étonnant. Est-ce que je me voue corps et âme à mon travail, à mes recherches, à ce centre d'intérêt? Tiens, quel mot j'ai employé là encore? Voué, corps et âme. Voilà, c'est des petites questions, des petits tests pour vous aider à voir si ça peut être un problème, ce que vous aimez faire. Donc, on pensez pas forcément seulement à un centre d'intérêt, à un passe-temps. Ça peut être aussi, ça peut être mon travail, je l'ai dit. Ça peut être mon talent, mon don que j'ai pas envie de perdre, que dans lequel je mets mon identité. Ça peut être mes qualités, ça peut être mon physique, bon pas moi, hein, mais d'autres. Ça peut être moi. C'est ce que c'est un égoïste. Hein. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Alors, comment les éviter? Comment les éviter, les ornières, les trous sur la route, les pièges? Comment les éviter? Mais juste, oui. D'abord, pourquoi les éviter? L'enjeu de cela. Alors, la réponse est dans le texte, hein, bien sûr. Elles ne servent à rien. Les disputes de mots, hein. Les bavardages profanes. Ça ne sert à rien. Ça amène la ruine. La ruine, hein, le terme est fort. Ça amène l'impiété. L'impiété, c'est l'absence de piété, hein. Ou c'est l'absence de piété ou c'est l'opposé de la piété? C'est une vraie question. Je pense que maintenant. Ça serait la piété si c'était l'absence de piété, donc ça doit être l'absence de piété, c'est ça? Bon. L'opposé de la piété? Ok, c'est l'opposé de la piété. Oui, l'absence de piété, ça serait la piété. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû rechercher ça avant. Ça amène la confusion, ça amène à l'hérésie, la fausse doctrine, à dire que la résurrection est déjà arrivée, ça renverse la foi des autres, ça fait naître des querelles. Tout ce que je viens de dire, c'est dans le texte. Hein. Certains disaient que la résurrection, que les hommes étaient déjà ressusciter, je sais pas le détail de cette fausse doctrine-là. Est-ce qu'il y a besoin de préciser? Voilà, il disait que la résurrection était déjà arrivée et effectivement, ça renversait la foi, ça posait de gros problèmes. La résurrection, on l'attend. Jésus nous a promis de nous ressusciter et elle n'est pas encore arrivée. On l'attend pour être ressuscité avec lui. On peut rajouter, ça, je l'ai pas trouvé dans le texte, mais ça me paraît clair aussi. On peut rajouter que ces disputes de mots, ces discours vains et profanes, ils n'édifient pas. Ça veut dire qu'ils ne font pas grandir le peuple de Dieu, les chrétiens. Ça n'édifie pas. Encore un qu'on voit, pour montrer l'enjeu, on le voit au verset 26. Tout ça, c'est le diable qui est derrière tout ça. Je vous relis le verset 26. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est le diable qui est derrière cela. C'est grave, hein? C'est grave. C'est pas juste. Donc, comment on la distingue? Comment on distingue une ornière? C'est vrai, quels sont les critères? Parce que c'est vrai que la nuance peut être entre la saine théologie et la dispute de mots est pas facile. On en a parlé avec Stéphane. C'est pas facile à trouver. Et je pense qu'effectivement, d'ailleurs, on mettrait pas forcément tous le curseur au même endroit. Ben, on l'a dit, ça, est-ce que ça édifie? Est-ce que ça fait grandir? Et je vais donner un autre indice un peu plus loin. Un autre critère, pardon. Et là, j'ai quelques indices. Quand quelqu'un dit, ben écoutez, ce verset, tout le monde l'a traduit comme ça, mais en fait, c'est mal traduit. En fait, ça devrait être comme ça, plutôt. Et cela change totalement le sens. Moi, je dis, hashtag méfiance. Quelqu'un qui dit, je l'ai dit tout à l'heure rapido, mais en français, ça veut dire non, mais en fait, en grec, ça veut dire oui. Hashtag méfiance. Si on prend le début de ce verset dans la traduction en français courant et la fin de ce verset dans la traduction semeur, ça donne ça. Hashtag méfiance. Un autre indice fort, lorsque quelqu'un expose une idée qui enlève quelque chose à Christ, qui enlève des prérogatives, qui enlève de la préséance, qui enlève de la gloire à Christ pour la mettre à autre chose, à quelqu'un d'autre ou à un autre chose. Là, gros hashtag méfiance là. Et donc ça c'est des indices qui nous font dire attention, peut-être que là ça, on va partir dans de la dispute de mots et peut-être qu'au bout d'un moment ça va nous amener à l'hérésie. Un critère, quel fruit est-ce que cela produit? Est-ce que cela me pousse à louer Dieu ou est-ce que ça apporte de la confusion? Ça, c'est vraiment un critère par exemple, pour discerner entre la saine théologie et la dispute de mots. Est-ce que ça me pousse à louer Dieu? Toutes les discussions qu'on peut avoir sur l'élection, la prédestination, beaucoup, je sais que certains n'aiment pas, ils considèrent ça la dispute de mots, mais au final, ça me pousse à louer Dieu de me dire, il m'a choisi, j'étais pas né, il m'a déjà choisi pour être sauvé, j'ai rien fait, c'est juste. Dieu m'a élu, m'a choisi, ça me pousse à louer Dieu. Un autre critère, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça fait grandir le peuple de Dieu? C'est aussi le filtre que Paul veut qu'on utilise pour le parler en langue. On le voit dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, vous pourrez aller voir au verset 3, au verset 4, au verset 5. au verset 12, au verset 17, au verset 19. Est-ce que ça édifie? Tous ces versets, allez les voir, hein. Ça, chaque fois, il dit, est-ce que ça édifie? Il dit, je préfère dire quelques mots qui édifient que 10 000 paroles en langue qui n'édifient pas. C'est juste pour l'exemple. Et aussi du verset 6 de ce chapitre 14, il parle de l'utilité. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Ça, c'est vraiment, vraiment des critères forts pour dire, est-ce que c'est de la dispute de mots? Ou est-ce que c'est de la saine théologie dont on a besoin pour avancer? J'ai aussi les filtres, je vous ai ressorti les filtres de Socrate, vous les connaissez? Je sais pas pourquoi Laurent a parlé de Socrate ce matin, moi aussi. Vous connaissez peut-être les quatre filtres de, les trois filtres de Socrate? Une de ses connaissances vint voir ce Socrate tout excité et lui dit, Socrate, sais-tu ce que je viens d'apprendre à propos de Diogène? Socrate lui dit, un instant. Avant de me raconter ça, tu dois passer un petit test. J'appelle ça le test des trois filtres. Voyons ce que tu vas me dire. Le premier test, c'est celui de la vérité. Es-tu absolument sûr que ce que tu vas me dire est la vérité? Ben non, en fait, j'en ai entendu parler. D'accord, dit Socrate, donc tu ne sais pas si c'est vrai ou faux. Passons au second filtre, le filtre de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me dire au sujet de Diogène est quelque chose de bon? Ah non, plutôt au contraire. D'accord, donc tu t'apprêtes à me dire au sujet de Diogène quelque chose qui pourrait être mauvais. Et alors que tu n'es même pas sûr que c'est vrai. Là, le gars, il est un petit peu embarrassé quand même. Socrate continue. Bon, on va quand même passer le troisième test, le troisième filtre, celui de l'utilité. Est-ce que ce que tu vas me dire au sujet de Diogène peut m'être utile? Utile, non, pas franchement, non. Bon, eh bien, si c'est ni vrai, ni bon, ni même vraiment utile, pourquoi me le dire? Je pense que Socrate était quand même assez, hein, il avait un peu de discernement, ce garçon, un peu de sagesse. Hein. Je pense qu'on peut utiliser ces trois filtres. Donc, comment éviter les ornières maintenant? J'y viens quand même. Comment on les évite? Est-ce que c'est en les regardant en permanence pour savoir où elles sont que je vais mieux les éviter? Non! Ah, bah, dis donc. Un moniteur d'auto-école disait, ne regardez pas le fossé en vous disant, il faut absolument que je l'évite, il faut que je l'évite, il faut que je l'évite. Non, car la voiture va là où vous regardez. Regardez la route. Donc la réponse aussi là, c'est pareil, elle est dans le texte, c'est le verset 15. En dispensant avec droiture la parole de la vérité. En dispensant avec droiture la parole de la vérité. Le meilleur moyen d'éviter les disputes de mots, c'est de prêcher la parole de Dieu. Pareil pour les passions dévorantes. C'est pas en se disant, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça, il faut que je trouve autre chose, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête d'y penser. Mais c'est en recherchant d'autres choses, la justice, la joie, l'amour, la paix. C'est pas des choses mauvaises. C'est pas rechercher la contrition. C'est pas mettez-vous à genoux au lieu de faire votre passion, le truc que vous avez vraiment envie de faire, mettez-vous à genoux avec une règle en bois. C'est même pas aller prier pendant 4 heures, les gars, au lieu d'aller au cinéma. Si le cinéma est une passion dévorante, ça l'est pas forcément. Ne faites pas de raccourcis. C'est des choses bonnes. Recherchez la justice, la joie, la paix. C'est des choses sympas, hein. L'amour, la paix. On a un verset 19 là qui est, je trouve, assez central. C'est le solide fondement. Ce verset 19, il dit quelque part que seul Dieu connaît ce qui lui appartient. Et ensuite, tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. On a là toute la dualité de l'Évangile. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui élit, mais c'est ensuite aux élus de se retirer du mal, avec son aide, avec sa grâce, mais c'est aux élus de se retirer du mal. Et c'est vrai, on ne sait jamais avec certitude qui est un enfant de Dieu. Ici, à l'église de Pont, par exemple, si vous voulez être membre, on va vous rencontrer, un ou deux anciens vont vous rencontrer pour parler avec vous, pour savoir quelle est votre compréhension de l'Évangile. Mais au final, on ne voit pas dans les cœurs. Et Hyménée et Philette étaient certainement membres. On n'en sait rien, c'est pas dans le texte. Hein. Ils étaient certainement membres, ils avaient peut-être bien rencontré Timothée, discuté avec lui, oui, là, tout va bien. Mais ils ne se sont pas séparés du mal et ils en sont venus à l'hérésie. Hyménée et Philette, on n'a pas beaucoup de détails, hein, je fais un peu des, j'imagine un petit peu, mais des spéculations, merci. Et comment ? Merci. On imagine qu'ils étaient membres, que tout le monde pensait qu'ils étaient enfants de Dieu, qu'ils étaient sauvés, et ils ont commencé à rouler dans les ornières parce que ça leur plaisait de rouler dans les ornières. Ça, y avait, moi, j'aime bien aussi quand je suis en quad, j'aime bien rouler dans les flaques parce que ça en envoie partout. J'arrive chez moi, je suis crotté, mais je suis content. À force de rouler dans tous les trucs les plus bizarres, les plus visqueux, ils sont partis au fossé en disant n'importe quoi. Là, c'était vraiment, ils sont partis vers l'hérésie. Comment éviter les ornières? On peut regarder aussi le verset 21 pour éviter les ornières. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Mais Paul dit en quelque sorte, concentre-toi sur la pureté de la parole et de toi-même. Prêche l'évangile pur, enseigne la parole. Et c'est en recherchant la pureté de l'évangile et de moi-même que je pourrai éviter les pièges. Donc il semble qu'il y a deux voies, une qui commence par des disputes de mots et qui va vers des fausses doctrines, de l'hérésie, et jusqu'à l'abandon de la foi, et qui aboutit à un usage, j'ai noté usage vil, c'était dans une autre traduction, c'est usage méprisable. Et une qui commence par s'attacher à la vérité de la parole, qui va vers la pureté et qui aboutit à être utile à son maître. Quoi de mieux ? Être utile à son maître. Ça commence par s'attacher à la vérité, ça continue par la recherche de la pureté et ça aboutit à l'utilité pour son maître. Je reprends mon image. Si je roule tout le temps dans les trous, si je roule tout le temps dans les, je cherche les pièges, les cailloux, les racines, les ornières, je risque fort de me retrouver dans le fossé. J'ai un ami qui fait du motocross et il m'expliquait quand il y a un passage difficile, il faut toujours, tu regardes un peu avant. Et tu dois toujours savoir où tu dois placer ta roue avant. Quand tu as un petit raidillon, un petit coin difficile, tu regardes, tu sais toujours où tu vas placer ta roue avant. Et le reste suit. Comment on se garde des discussions folles? En se concentrant sur la parole de Dieu. Comment on se purifie? En s'attachant à la parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous purifie et qui purifie nos pensées, qui purifie nos actions. Comment on répond aux contradicteurs? En enseignant avec douceur. Ça, c'est la traduction d'Arby, par exemple. En enseignant avec douceur. Et donc, c'est avec la parole. C'est la vérité de la parole. Et c'est Dieu qui donnera peut-être la repentance. Dieu donnera peut-être la repentance. Comment on se dégage des pièges du diable? En connaissant la vérité. C'est la vérité de l'évangile qui libère de l'emprise du diable.